Woman, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.
Bonjour à tous, ici Pierre-Alain Gourion depuis le Loftart à Villeurbanne. Dans notre émission Human, Human c'est quoi? Eh bien c'est toi, l'homme. Que fais-tu de ta planète et de ta vie en société? Une question d'autant plus actuelle que nous voilà depuis quelques 6 mois, en partie confinés, pendant 2 mois et demi en Europe, plus ou moins selon les pays et les régions. Et tous souvent masqués. Là, nous nous sommes démasqués en quelque sorte pour pouvoir bavarder avec vous. Et parler de quoi? Eh bien, on va le demander à Carole, ou plutôt à Clara Castoldi, avec qui j'ai le plaisir aujourd'hui de démarrer cette émission et de co-animer cette émission. De quoi parlons-nous aujourd'hui, Clara?
Alors aujourd'hui, on va parler de la pandémie de Covid-19 et de ses relations avec l'humanitaire. Donc ça n'aura échappé à personne, nous vivons une crise sanitaire mondiale et celle-ci a des perturbations considérables sur tous les secteurs de la société et en particulier sur les secteurs de l'humanitaire. Donc on va pouvoir l'observer en distinguant d'un côté la maladie au Covid-19 et les risques qu'elle représente pour les personnes et d'un autre côté les restrictions de mouvement qui ont été imposées et qui pour endiguer la pandémie et qui donc entravent la circulation des biens et des personnes. Donc d'un côté on a la pandémie et donc ce besoin d'intervenir auprès des plus vulnérables, donc d'abord les populations à risque, les personnes plus âgées ou qui présentent des risques de santé, et d'un autre côté, les personnes qui n'ont pas accès aux services de santé. On a aussi l'impossibilité pour une grande partie de la population mondiale de respecter les règles sanitaires. Donc, par exemple, se laver les mains, une grande partie de la population mondiale n'a pas accès à de l'eau potable ou à simplement de l'eau qui lui permettrait de se laver les mains. Et aussi pour ceux et celles qui vivent dans des zones surpeuplées, que ce soit des camps de réfugiés ou par exemple dans les bidonvilles. Et donc de l'autre côté, on aurait les restrictions de mouvement pour les personnes et les biens. Beaucoup de personnes ont des difficultés, en particulier dans le secteur humanitaire, pour acheminer les biens nécessaires, les matériels nécessaires pour intervenir. Il y a aussi des difficultés de communication avec les personnes qui n'ont pas accès à Internet. Et enfin, l'impossibilité d'assurer un renouvellement des équipes dans les pays qui ont été confinés et mis en quarantaine. Donc cela n'est qu'une partie des problématiques qui existent. On va pouvoir en aborder plus aujourd'hui, en particulier étant donné qu'on a des ONG qui sont assez différentes.
Voilà, et ces ONG qui nous entourent aujourd'hui, eh bien, elles sont représentées d'abord par Carole Solorzano. Carole, bonjour.
Bonjour.
Voilà, Carole, vous faites partie, tu fais partie, on va se tutoyer, c'est plus simple.
Okay. Hein,
on n'a pas les masques, oui. Alors ça va. On dit vous avec le masque et tu sans le masque.
Ça marche.
Voilà, tu es la responsable pour l'Europe, ou en tous les cas la chargée de coopération et de partenariat d'une ONG qui s'appelle Techo. Alors, présente-nous cette organisation non gouvernementale, Techo. Que fait Techo et dans quel pays?
D'accord. Donc Techo, c'est une organisation qui est née en 97 au Chili. C'est une organisation dirigée par des jeunes qui a été créée et c'est une organisation qui est née comme un mouvement des jeunes qui voulaient faire quelque chose et qui a réussi à grandir et transférer l'organisation dans 19 pays de l'Amérique latine. Donc aujourd'hui, on travaille dans 18 pays et notre objectif, c'est de mobiliser des jeunes à travers le bénévolat. Donc, on est des jeunes qui mobilisent des jeunes et on veut travailler aux côtés des familles qui habitent dans des bidonvilles en Amérique latine. Donc, c'est des familles qui sont en situation de pauvreté, qui sont normalement isolées par rapport aux grandes villes de l'Amérique latine. Et donc, on travaille surtout les questions de logement et habitat. Et dans ce bidonville. Bien sûr, pour travailler ce genre de projet, on travaille beaucoup l'organisation communautaire. Donc, on accompagne les communautés et tout ça avec en mobilisant surtout la jeunesse.
Voilà, un focus vraiment sur la jeunesse. Parce que vous aimez pas les vieux ?
Non, c'est pas pour ça. On croit juste que les jeunes ont vraiment beaucoup de capacités qui sont pas assez exploitées dans tous les pays. Donc, on essaye d'ouvrir une porte pour ça.
Voilà. Et puis avec nous aussi, eh bien, un habitué de cette émission, puisqu'il en est l'un des fondateurs, d'une certaine manière. Quand on a démarré cette émission il y a environ 2 ans, j'ai nommé Patrick Verbrucken. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Voilà, donc Patrick, tu es le responsable et même le créateur ou l'un des créateurs d'une ONG qui s'appelle Triangle Génération Humanitaire. Rappelle-nous en quelques mots ce que fait cette ONG, sa mission, ses missions et son actualité.
Bah, disons que Triangle a été créé en 94, donc Triangle veut dire urgence, réhabilitation, développement, ce qui nous permet de travailler au plus près des besoins des populations suite à des catastrophes naturelles, suite à des guerres. Suite aussi au changement climatique éventuellement, on travaille dans la sécurité alimentaire notamment, ce qui me permet de faire on mène des programmes de développement, de la formation. On est sur 3 secteurs principaux, c'est-à-dire l'eau, la sanitation, l'agriculture et ce qu'on appelle la protection. Dans la protection, on parle des traumatismes notamment auprès des populations, notamment des enfants. Par exemple, on travaille sur Mossoul et sur Sinjar, sur les enfants qui ont été traumatisés par Daesh, enfin par les conséquences. On travaille aussi dans des camps de réfugiés pour amener de l'eau douce, de l'eau potable. Donc voilà, c'est beaucoup de programmes différents. La formation professionnelle aussi. Disons qu'on essaye au maximum de s'adapter aux besoins des populations. C'est-à-dire qu'on va sur place, c'est comme un boulot de journaliste, on va faire une enquête, savoir qu'est-ce qui est, parce que les besoins sont énormes de partout, donc à un moment, il faut bien choisir dans quel secteur on va travailler, suivant les pays. On travaille dans 10 pays totalement différents, sur les continents africains, asiatiques et européens, notamment en Ukraine, où là, c'est encore une autre dynamique. Voilà, en gros, on est une ONG qui a nous avons à peu près 600 personnels nationaux répartis sur 10 pays, à peu près 60 salariés, dont 25 au siège.
Voilà. Et alors, de quelle manière, globalement, pour votre organisation, pour Triangle, cette pandémie, qu'est-ce qu'elle a eu comme effet ? J'allais dire grossièrement, globalement, et ensuite on rentrera peut-être pays par pays sur des focus particuliers, des situations spécifiques.
Disons que pour nous, en termes d'opérationnel, là je parle du personnel de Triangle, que ça soit national ou expatrié, ça n'a pas eu vraiment d'impact. On a continué toujours nos programmes parce qu'on est quand même dans une dynamique compliquée dans la plupart des pays, les zones de guerre, ainsi de suite, donc où les terrains sont très difficiles d'accès. Alors le problème, ça a été l'accès sur les terrains, pas tellement l'accès dans les pays, parce qu'on a vite travaillé avec nos différents bailleurs de fonds, et notamment le centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères.
Ça a bien marché, ça ?
Ça a super bien marché. Il y a eu le premier avion qui a décollé assez rapidement pour la République centrafricaine. Là, il y a eu beaucoup de problèmes. Donc, ça a donné... La France a été leader sur l'envoi du personnel et du fret humanitaire et notamment aussi diplomatique, évidemment, et Nations Unies. Donc, on a pu faire rentrer les expatriés qui ne voulaient pas rester sur place et ramener de nouveau sur les terrains. On est resté beaucoup en télétravail, mais ce sont des choses que l'on pratique depuis longtemps. Donc le télétravail est naturel pour toutes les ONG, voilà. Sauf que le siège, on était que 2, il y a déjà 5, mais on était tous en relation évidemment par écran, ce qui est beaucoup moins sympa que d'avoir les personnes physiquement présentes.
Vous avez eu une surdose d'écran et de Skype et de tous ces
jusqu'au dégoût.
Hein. Voilà, donc ça fait du bien de pouvoir se parler à visage découvert et en présentiel, comme on dit aujourd'hui. Donc passe tellement de difficultés d'accès sur le terrain grâce, si j'ai bien compris, au travail de la France et de l'Europe et derrière des Nations Unies, avec ECHO, j'imagine. mais une difficulté d'accès sur le terrain même.
Ouais, c'est très variable parce qu'il y a certaines, évidemment, certains gouvernements qui ont utilisé, je pense à la Birmanie, sur une région qui est dans le Rakhine qui s'appelle Palewa, qui est une zone de guerre. Donc le prétexte du Covid-19, ça nous a empêché. Souvent, on a besoin d'avoir d'autorisation pour se déplacer sur certaines zones. Il faut demander à l'avance, ainsi de suite. Et donc là, du coup, le Covid, non, vous pouvez pas y aller parce qu'il y a le Covid. Mais en fait, c'est plus un prétexte, pour éviter qu'il y ait trop de témoins. Donc on se retrouve souvent dans ces situations-là. Donc en général, nous, on y arrive parce qu'on est extrêmement discret. Et voilà, on travaille dans des pays comme la Corée du Nord, ainsi de suite. Donc on a l'habitude d'éviter de la ramener, et éviter de brusquer les autorités parce qu'on est quand même dans des contextes de guerre. Donc ça a été le problème. Sur d'autres zones, le personnel national, on est présent sur ces pays depuis très longtemps. Donc on a du personnel qui est très bien formé, personnel national. Donc ils ont pris le relais, les gestes barrières, il n'y a pas eu besoin de leur expliquer, d'entrée ça a été mis en place, c'est-à-dire que il y a des programmes qui sont d'une importance capitale, la gestion de l'eau, la sécurité alimentaire, ou si on arrête ça juste 3 jours, il y aura des dégâts, on pourra déplorer des morts, donc il fallait absolument que les programmes continuent, quoi. Personne s'est posé la question. Il y a un mouvement de solidarité au niveau des gouvernements sur place, de toutes les ONG. On a mis tout en commun et ça a marché. On a pu passer cette période de confinement sans trop de dégâts. Juste les programmes, ce qu'on appelle les programmes soft, c'est-à-dire que dans les camps de réfugiés, les programmes destinés auprès des enfants traumatisés, ainsi de suite. Donc là, c'était.
Qu'est-ce qu'on appelle les programmes soft?
Soft, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la protection. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des lieux de vie pour les enfants. C'est-à-dire qu'ils puissent à un moment retrouver leur espace d'enfant. C'est-à-dire sans les adultes, sans les traumatismes des adultes, sans qu'ils soient devant une télé avec toutes les images d'horreur qui sont diffusées, notamment dans les pays. C'est pas des images qu'on a ici. Et donc, leur redonner leur place d'enfant. Le problème, c'est que c'est des grosses concentrations. Donc il fallait être dans les camps de réfugiés. Il faut protéger aussi les anciens. Donc là, il fallait éviter au maximum la propagation du virus sur les personnes les plus faibles et sur les anciens, quoi. Donc on était obligé de les arrêter. Ça reprend petit à petit, évidemment. On a continué à travailler, mais en allant plus auprès des familles qu'en rassemblant. On a évité au maximum les rassemblements. Après, il y a des distributions de nourriture. Il fallait la distance de sécurité, les masques, le lavage des mains, ainsi de suite. Tout ça, ça a fonctionné, quoi.
Ça a fonctionné, y compris donc le lavage des mains, parce qu'il y avait suffisamment d'eau. Parce que le problème, c'est d'abord avoir de l'eau potable, j'imagine.
Non, mais pour laver les mains, c'est pas la peine d'avoir de l'eau potable.
Ah bon, on peut avoir de l'eau sale, on peut se laver les mains avec de l'eau sale.
Après, la notion d'eau sale, d'eau propre, oui. Par rapport, c'est très variable selon les pays. Il y a les notions occidentales, les notions, puis il y a la réalité terrain, quoi. Il y a de quoi, et puis il faut du gel, il y avait du gel à disposition, on a pu se refournir partout dans les pays, et puis il y a eu des approvisionnements qui ont été faits par des avions qui viennent soit de l'Union Européenne, soit de la France, soit de tout un tas de fournisseurs,
D'accord. Est-ce que votre expérience est semblable, Carole Solorzano, pour Fecho? Est-ce que certains gouvernements ont parfois utilisé le Covid, en quelque sorte, pour résoudre des problèmes politiques?
C'est possible qu'il y ait des pays en Amérique latine où il y avait vraiment beaucoup des manifestations politiques juste avant le Covid. Donc, je peux pas dire assurer à 100% quel gouvernement et pourquoi exactement, mais c'est vrai qu'on était juste au milieu d'une vague de manifestations dans certains pays. Et notamment aujourd'hui, par exemple, la Colombie a repris les manifestations politiques parce que ça, et le confinement est un peu moins et dur, on va dire. Donc, on va dire que par hasard, il y avait des vagues de manifestations qui ont été arrêtées par le Covid, mais c'est très difficile à dire parce que, en même temps, c'est vrai qu'il y avait une pandémie quand même là-bas et qu'il fallait faire un confinement.
Et donc, de votre point de vue, quels sont les effets majeurs de cette pandémie du printemps 2020 sur votre activité, sur l'activité de votre organisation?
Alors nous, on a été très touchés parce que notre objectif, c'est quand même de mobiliser des jeunes pour aller dans des communautés et organiser des assemblées générales avec la communauté. Vraiment, c'est un objectif de rassemblement des personnes pour discuter, pour planifier. Et donc ça, déjà, c'était impossible. Et on a décidé depuis mars, même si le confinement n'était pas commencé en Amérique latine, on a décidé de commencer le télétravail. Nous également, on est très habitués au télétravail. Et aussi, donc on a arrêté aussi les visites aux communautés pour éviter d'amener nous-mêmes le virus. Et d'un côté, au niveau du budget, on va dire, on a été très affectés aussi parce que normalement, les salaires des employés techo sont payés par des projets. Et on n'était pas en capacité de développer nos projets parce qu'on pouvait pas aller dans la communauté. Donc forcément, il y a eu une réduction de l'équipe dans tous les pays. Et soit des réductions d'équipe, soit des réductions de salaire. Alors nous, on est plutôt des locaux, donc on n'avait pas vraiment de problème de déplacement pour les pays. Mais quand même, on a été très touchés sur place à ne plus avoir la capacité de payer un bureau dans certains pays et à ne plus avoir besoin non plus parce qu'on pouvait pas vraiment venir au bureau et travailler. Et sur un niveau... dans les communautés, le niveau du projet, donc déjà, on pouvait pas venir. Enfin, on a décidé de ne pas venir pour éviter les risques. Mais il y avait aussi les besoins qui ont changé. Donc, nous, on travaille plutôt sur les développements. On prend vraiment le temps de faire l'enquête, comme vous avez dit, et de reconnaître quels sont les problèmes et de travailler. C'est quelque chose qui prend du temps pour que ça puisse vraiment impliquer les populations qui sont vraiment concernées. Et là, c'était une urgence par rapport à l'alimentation qui était très importante. Les personnes qui habitent dans les bidonvilles, et la plupart, ils ont des travails qui dépendent de chaque jour, de ce qu'on fait chaque jour, de ce qu'on peut sortir et vendre. Et donc, si on peut pas sortir de la communauté, on peut pas travailler. Si on peut pas travailler, on n'a pas le moyen pour acheter... à manger, de toute façon aussi. Et normalement, c'est les bidonvilles, ils sont très très isolés des villes. Donc, pour se fournir d'alimentation, d'eau, il faut faire un certain trajet. Et là, c'était impossible parce qu'il y avait le confinement. Donc, on a commencé à distribuer. On a appelé ça des kits d'alimentation et d'hygiène pour pouvoir accompagner les communautés dans ce qui était les besoins urgents du moment. Donc, on a réussi à distribuer plus de 130 000 en Amérique latine en général. Dans certains pays, c'était accompagné par les autorités locales qui étaient bien impliquées dans ce sujet aussi. Dans d'autres pays, on l'a fait nous-mêmes. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est que ça a confirmé notre engagement pour l'organisation des communautés. Parce qu'on a vu que quand les gens sont organisés, ils sont vraiment capables de trouver des solutions eux-mêmes. Donc déjà, ils n'avaient pas forcément accès à l'eau ou à la nourriture et avec l'organisation, ça a pu s'améliorer.
Voilà, trouver des solutions soi-même par les populations concernées, c'est bien sûr l'une des clés de résolution des problèmes auxquels on est confronté. Voilà, ces maisons qui s'ouvrent ou qui se ferment, une manière d'annoncer une musique que vous nous avez proposée qui s'appelle Casa Abierta, la maison ouverte, c'est le duo Guarda Barranco, écoutez.
Hermanos, de norte a sur, al fin del mundo, saber oír y dar mis manos, sudar jugando algo bien sano. Quisiera darte buena suerte y ser tu amigo hasta la muerte, que la distancia no me entuma y la amistad no se consuma. Todos aquí somos humanos, ¿qué más me da el color, la raza? Dentro tenemos sentimientos que necesitan de sustento. Si adentro hay buenos sentimientos, no se pueden quedar adentro. Aquí está mi casa abierta, hay un plato por ti en nuestra mesa, sombra de árbol para tu cabeza, libro abierto a tu vida, mi puerta. Casa abierta, la amistad no cuestiona tu credo, a la tierra le gusta que amemos, sin distingos de culto y bandera. Casa abierta, hay un plato por ti en nuestra mesa, sombra de árbol para tu cabeza, libro abierto a tu vida, mi puerta. Casa abierta, la amistad no cuestiona tu credo, a la tierra le gusta que amemos, sin distingos de culto y bandera. Casa abierta, hay un plato por ti en nuestra mesa.
Oui, donc impliquer les populations locales dans le travail des ONG, c'est quelque chose qui a été démontré comme amenant aussi plus de durabilité des programmes et comme présentant des programmes qui sont plus adaptés aux nécessités des populations bénéficiaires. Et donc dans ce contexte, j'imagine que ça a dû beaucoup vous aider, Patrick Verbruggen, d'avoir des équipes locales assez développées qui ont pu reprendre le travail.
Bien sûr qu'on continue le travail, surtout, puis les communautés sont impliquées, parce que ce qui est important dans les métiers de solidarité internationale et solidarité tout court, c'est d'impliquer les populations, c'est de se poser avec elles, c'est de discuter, c'est d'échanger, c'est de voir la meilleure piste, parce qu'il n'y a pas de solution, souvent, il y a juste de quoi améliorer le quotidien. Les équipes, on a la chance de... Enfin, disons que c'est un petit peu notre philosophie, notre politique. On quitte des pays, bien sûr, quelquefois quand notre valeur ajoutée n'est plus évidente, mais dans les 10 pays où on travaille, on y est pour la plupart depuis pratiquement plus de 20 ans. Donc on a du personnel national extrêmement bien formé. Certains deviennent expatriés d'ailleurs, donc ils échangent avec, ils vont dans d'autres pays. Ils ont pris le relais, les communautés nous connaissent. Donc il y a certains endroits du monde comme le Darfour au Soudan, au Nord-Soudan, qui depuis 2003 c'est une zone de guerre latente, c'était la guerre, mais ça continue quand même avec des déclarations de population. Donc on a une image, on est connu, notre sécurité est à ce prix-là, c'est-à-dire que si on travaille bien, si on est assez discret aussi, il faut l'être, si notre personnel national est bien impliqué dans, vient des communautés d'ailleurs, hein, souvent on fait attention à ça, donc on va pas prendre uniquement des gens qui viennent d'une communauté précise, on essaye d'être très très large, on essaye de montrer notre neutralité, donc voilà. Donc, mais en tout cas, on en était déjà persuadé, mais le personnel national dans chaque pays a vraiment assuré, a pris non pas le relais, parce qu'il y avait des expatriés qui étaient présents sur toutes les missions. Certains ont été seuls. Je pense à notre chef de mission au Soudan, elle a été seule pendant un moment, c'était extrêmement fatigant, on a eu les expatriés se sont donnés comme personne nationale, il y a eu des cas de burn-out évidemment, parce que bon ben c'est comme de la pression. On savait pas où on allait, même au siège, donc on se demandait qu'est-ce qui allait se passer. Voilà, et puis continuer les programmes essentiels. Encore une fois, le Covid est une pandémie mondiale, mais qui impacte pas tout le monde. Par contre, un manque d'eau ou un manque de nourriture, ça impacte gravement les populations.
Qu'est-ce que vous faites quand, voilà, si vous avez un expatrié, par exemple chef de mission quelque part, qui rentre dans un stress, qui a une pression trop importante sur lui et qui fait ce dont vous venez de parler, c'est-à-dire un burn-out, c'est-à-dire il explose. Comment est-ce que vous réagissez?
Déjà, on a un contact permanent, donc oui. Tous les jours, télétravail, ainsi de suite, mais c'est aussi des entretiens, voilà, on sait ce qui se passe, il y a un échange, on a une proximité siège-terrain chez nous qui aussi permet aux gens de s'exprimer, c'est-à-dire qu'il y a une ligne aussi dédiée avec des psychologues, donc c'est des numéros, donc ça c'est très confidentiel, hein. Donc ils appellent voilà, le soutien psychologique.
Ils peuvent appeler un psychologue, indépendamment même de la relation hiérarchique avec le siège, etc.
Oui, c'est privé.
Manière sécurisée et confidentielle.
Exactement. Et puis, à ce moment-là, on essaye à ce moment-là, il fallut les faire rentrer le plus rapidement possible. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'avion, forcément. Si on sait à Khartoum, quand les aéroports sont fermés, ils sont fermés. Donc, alors que certains avions ont pu arriver. Et encore une fois, ça a été le travail du centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères français, qui a réussi à faire poser des avions dans des aéroports fermés comme Khartoum ou autres. Donc voilà, parce qu'il y avait besoin aussi.
Donc là, c'était des avions comment militaires ou des avions civils affrétés par l'autorité publique.
C'est l'autorité publique qui a réquisitionné, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais Air France notamment.
Oui.
Mais c'était très compliqué parce que les équipages ne pouvaient pas descendre, donc c'était double équipage. Ainsi de suite. Donc ça a été la logistique a été mise en place en fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une relation très très étroite entre ce qu'on appelle les directeurs opérationnels de chaque ONG et le centre de crise. Donc il y a eu des réunions toutes les semaines en permanence, réunions téléphoniques. On ne parlait pas de politique du tout là, on était vraiment uniquement sur l'opérationnel, quoi. C'est comment on peut faire partir tel ou tel avion, quelles vont être les conditions, ainsi de suite. Donc là ça a fonctionné pratiquement au bout d'une dizaine de jours, quoi. Donc on a pu continuer à évacuer ceux qui voulaient partir, les expatriés, et puis alimenter avec des nouveaux expatriés sur le terrain, parce que c'était des périodes de stress pour tout le monde. Et sur certains terrains, c'était extrêmement fatigant.
Voilà, une expérience concrète à nous relater, Carole Solorzano, dans cette optique-là, par rapport aux difficultés de transport, par rapport aux difficultés d'approvisionnement ou d'apport de biens alimentaires ou de biens de construction, puisque c'est votre métier en tant qu'ONG, une expérience spécifique dans un pays particulier de l'Amérique du Sud.
Nous on n'a pas forcément le même problème, et pour nous c'était plutôt effectivement l'approvisionnement des locales, comment faire arriver l'eau et comment faire arriver des aliments dans les bidonvilles. Donc, ce qu'on a fait dans certains pays, c'est qu'on a travaillé avec les autorités locales. C'était vraiment ce qui était autorisé pour aller dans les communautés et pour nous donner des autorisations aussi des transports.
Quel pays, par exemple?
Par exemple, je pense à Uruguay.
Oui.
Et Uruguay, on a beaucoup travaillé
Uruguay, c'est juste en face de l'Argentine, c'est ça? Je me trompe pas?
Oui, c'est à côté de l'Argentine.
Oui.
Ouais. C'est Amérique du Sud.
De l'autre côté du Rio de la Plata.
C'est ça.
Ouais.
Et donc, en Uruguay, on avait d'un côté la distribution des kits d'alimentation, donc les plus basiques pour une famille puisse tenir une semaine, deux semaines. Mais aussi, à un moment, il y a eu l'organisation de ce qu'on appelle les ollas solidarias. Si je fais la traduction, c'est des casseroles solidaires.
Des casseroles solidaires.
Oui. Et comme je disais tout à l'heure, c'était l'organisation communautaire qui trouvait des solutions, qui sont dit, c'est pas toutes les familles qui ont les moyens, c'est pas toutes les familles qui ont le temps aussi. Et donc, il y a eu une organisation où un groupe de personnes de la communauté ou des plusieurs communautés même s'organiser pour faire à manger pour tout le monde. Donc, ils mettaient tous ensemble ce qu'ils avaient, et des aliments, et qu'il y avait un groupe qui faisait à manger et une distribution dans toute la communauté ou les communautés. Et on a eu ça, en Uruguay. Donc, c'était vraiment l'organisation communautaire. Mais pour donner un autre exemple, et au Pérou, c'était plus une question des plaidoyers, d'appeler les autorités locales en disant « il y a cette... et communauté qui n'a pas accès à l'eau, s'il vous plaît, venez ». Et il fallait quand même insister, appeler plusieurs fois. Et donc là, c'était plus faire les liens entre les autorités locales, les capacités des autorités locales et les besoins de la communauté.
Et est-ce qu'on peut dire, c'est une question qui me vient comme ça en vous écoutant, est-ce qu'on peut dire que plus spécifiquement dans une période d'effondrement partiel comme ça, de pandémie telle que celle que nous avons vécue, les ONG viennent en quelque sorte compenser ou se substituer en quelque sorte au pouvoir public. Je pense à ce que vous veniez dire sur les casseroles solidaires en Uruguay. A priori, c'est pas du ressort d'une ONG que de se substituer en quelque sorte à l'autorité publique pour agir. Voilà, est-ce qu'on peut générer des généralités en quelque sorte à partir de cet exemple-là? Est-ce que voilà, ma question, est-ce que en période de pandémie, en période d'effondrement, les ONG sont mieux préparées que d'autres organisations pour jouer ce rôle public qui leur est demandé? Patrick?
Substituer, c'est pas le bon mot, parce qu'on travaille avec.
Peut-être, oui.
On travaille avec. C'est-à-dire qu'on arrive dans des pays, je prends l'exemple de la République centrafricaine, qui est avec la Syrie, c'est des pays vraiment qui sont en train de souffrir. Voilà. Donc, il s'agit pas de se substituer, il s'agit de travailler ensemble. Et puis voilà, parce qu'au niveau du terrain, tout le monde est solidaire. Après, la politique n'intervient pas. Quand on parle d'autorité locale, on va parler d'une mairie, d'une préfecture, donc voilà, qui eux ont des besoins, qui n'ont pas de moyens. Donc on vient en appui parce que tout simplement la politique du gouvernement ne finance pas la santé publique, ne finance pas les routes, ne finance pas le transport, ne finance rien du tout, enfin, où il n'y a pas d'électricité. Donc on est là pour aider les autorités, les populations. Donc c'est un travail en commun. Si on oublie un acteur, enfin quand on travaille sur un terrain, si on est un acteur, on devient un acteur local. Donc voilà, il faut impliquer tous les acteurs locaux et nous-mêmes aussi. Donc voilà, c'est d'aller expliquer qui on est, ce que l'on fait, pourquoi, et faire en sorte que la décision soit prise en commun et non pas qu'elle vienne pyramidalement de l'ONG. Parce que alors là, on va droit à la catastrophe et en termes de sécurité, c'est, je dirais même physique, c'est très très dangereux.
Allez, on va partir sur le terrain et on va s'écouter du djembé. Du djembé, c'est un titre, Djembé Balag Numa. De Dabou Dembélé. Thank you.
Donc, Carole, vous nous avez expliqué que vous travaillez très facilement en télétravail à Techo, vous êtes très habituée à ça. Mais au niveau des communications avec les personnes qui vivent dans les bidonvilles, les communautés avec lesquelles vous devez constamment être en communication pour trouver des solutions ensemble, comment est-ce que ça s'est passé pendant cette période de confinement?
On a eu la chance d'avoir quand même des téléphones. Ça, c'était déjà un minimum. Donc, peut-être c'était pas Internet, c'était pas Skype, mais on avait quand même des téléphones pour pouvoir être en communication au moins avec les leaders de la communauté qui pouvaient nous tenir au courant sur la situation de la communauté. Après, ce qu'on a fait dans certains pays, c'est qu'on est quand même allé pour expliquer comment télécharger Zoom sur le téléphone et comment ça... on a fourni aussi Internet, parce qu'il n'y avait pas forcément. Et donc, on a réussi à faire des réunions quand même avec les leaders des communautés. Et ça, c'était vraiment important, parce que quand tu es bénévole ou quand tu travailles dans une organisation, si tu ne vois pas le terrain, ce n'est pas très motivant, tu ne sais pas exactement avec qui tu travailles. Et donc, là, ça a été quelque chose de très, très intéressant. On a quand même réussi à avoir une bonne participation de certains leaders dans les bidonvilles qui ont utilisé pour la première fois Zoom et qui sont connectés pour parler avec les bénévoles, pour donner de nouvelles et surtout pour parler avec d'autres leaders d'autres bidonvilles dans d'autres pays. Donc, même si c'est l'Amérique latine, ça change quand même. Ça dépend des... Ouais, déjà, il fallait qu'ils parlent tous espagnol parce qu'il y a ceux qui sont au Brésil ou ceux qui sont en Haïti qui parlent pas espagnol forcément. Et donc, on a fait ça. Et pour donner un exemple, on a fait la rencontre latino-américaine des bénévoles des Techo. Donc, on a eu environ 1000 bénévoles qui sont connectés sur Zoom pour parler sur ce qu'on fait à Techo, sur la situation dans les communautés. Et on a réussi à avoir quand même des leaders communautaires qui sont venus partager leur expérience. Donc, ça a été vraiment important pour nous parce que ça nous a permis de continuer le travail. Normalement, ces rencontres, on les fait en présentiel. Et ça nous a permis vraiment de rester connectés tous et avoir surtout les leaders communautaires, les voir, les entendre. C'était très important pour la motivation et pour continuer les travaux.
Et est-ce que alors, du coup, je pense à cette réunion de 1000 bénévoles à travers Zoom, vous l'auriez pas vécu ça s'il n'y avait pas eu la pandémie?
Non. Non, non. On a l'habitude de faire ces rencontres chaque 2 ans.
Oui.
Et donc, la participation est un peu plus limitée parce qu'on peut pas forcément payer des billets d'avion à tout le monde. On a quand même une représentation de chaque pays, mais là, c'était vraiment ouvert et c'était vraiment tous les bénévoles pouvaient participer directement et on a eu une bonne réponse.
Est-ce qu'on arrive à motiver des bénévoles sans les voir, sans faire une organisation, une réunion physique? Est-ce qu'on arrive à les motiver à travers Zoom, à travers un programme virtuel qui passe par l'Internet?
Je pense qu'il faut bien réfléchir à ça, mais on peut le faire. Je pense particulièrement à l'équipe qu'on a ici en Europe. On a une bonne équipe d'une vingtaine de jeunes, soit des latino-américains qui font des études en Europe ou des Européens qui sont partis en stage et qui reviennent et qui sont toujours engagés. Et on a cette capacité de garder ces liens, de se rappeler pourquoi on travaille ensemble. Et c'est un bon engagement. Je sais pas si ça tient dans la durée. au moins 1000 bénévoles, je ne sais pas, mais avec une vingtaine, on fait ce travail. Parce qu'on a aussi vécu quelque chose, on a vécu une expérience, on a été face à face avec une réalité que c'est pas forcément la nôtre. Et ça, ça reste en nous. Et puis, si t'as l'opportunité, le temps, je pense qu'on peut vraiment avoir une équipe des bénévoles. C'est ce qu'on fait en Europe. Et c'est difficile parce qu'on voit pas les terrains chaque week-end comme ceux qui sont en Amérique latine. Mais on garde les liens. On arrive quand même à garder ces liens et à travailler ensemble.
Alors tiens, soyons positifs. Est-ce que vous voyez, Patrick, est-ce que tu vois d'autres aspects positifs de cette crise du Covid? C'est-à-dire ce qu'on a été obligé de faire, est-ce que ça a pu améliorer quelque part le mode de fonctionnement de ton ONG?
Disons que ça a renforcé en fait les liens, ça...
Renforcement des liens.
Renforcement des liens. Bon, déjà, on n'était pas trop mal. Hein. On n'est pas une grosse équipe. Chez nous, il n'y a pas de bénévoles parce qu'on peut pas se le permettre.
À cause de quoi? De problèmes de sécurité, de...
C'est-à-dire qu'on est, on est sur des programmes à long terme, sur des programmes techniques, ainsi de suite, qui demandent, voilà. Donc, on va plus se travailler avec des journaliers sur le terrain, donc avec, avec des gens qu'on va employer nationalement. D'une manière générale, on essaie d'utiliser au maximum les capacités du pays. Donc, on va pas envoyer, on met peu d'expatriés, hein. Il y a quelquefois 3 expatriés pour 200 employés nationaux, enfin voilà, avec une équipe de cadres. Donc voilà, mais ça, justement, il y a eu un rapprochement, pas un rapprochement, ça a renforcé le lien siège-terrain. Sur le terrain, expatriés, personnes nationales, ceux qui sont restés. Donc, et puis ça contribue à l'histoire, c'est une histoire, je rebondis là-dessus, on a, c'est quelque chose qu'on a tous partagé dans le monde entier. Donc voilà, on a quelque chose en commun. Donc c'est ça, je trouve ça positif, c'est-à-dire qu'on aura... Au moins, quand on pourra retourner sur le terrain, parce que des gens comme moi peuvent pas retourner pour l'instant, mais on aura quelque chose à partager, des conversations qui vont, comment on l'a vécu, ainsi de suite. Ça, c'est ce que je trouve très intéressant, quoi. On a
comme si l'ennemi Covid nous avait rapprochés les uns des autres.
Je pense dans certaines régions, oui. Après, donc espérons que on va parler que du positif, et même dans nos sociétés. Donc ça a amené quand même, je pense que ça a amené des liens qui se sont créés, qui n'auraient peut-être pas existé sans le Covid, je sais pas. En tout cas, moi je préfère voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide, quoi, parce que...
Voilà. Écoutez, une petite promenade à travers les relations entre pandémie et humanitaire. On va peut-être s'écouter une pièce de musique à travers le groupe Calle 13. C'est ça. On revient en Amérique du Sud et un titre qui s'appelle La Perla.
Oye,
écoutez.
Esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico.
Trujillo,
dedicado al barrio de La Perla. Pocho. Dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué estás mirando?
Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco. Brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me escocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito. Pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana.
Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Un arco iris con sabor a piragua. Gente bonita rodeada por agua. Los difuntos pintados en la pared con aerosol. Y los que quedan jugando basquetbol. Un par de gringos que me dañan el paisaje. Vienen tirando fotos desde el aterrizaje. La policía que se tira sin pena. Rompiendo mi casa pa' cobrar la quincena. Aquí nació mi maya, hasta mi bisabuela está en mi barrio. Yo soy libre como Mandela. Cuidado con la vieja escuela, que no te coja. Que te va a meter con chancleta y palos de escoba. Así que no te me ponga majadero, porque yo vengo con apetito de obrero. A comerme a cualquiera que venga a robarme lo mío. Yo soy el Napoleón del caserío. Oye, esto se lo dedico a los que trabajan con un sueldo bajito, pa' darle de comer a sus pollitos. Yo quiero a mi barrio como Tito quiere a Caimito. Yo no lucho por un terreno pavimentado, ni por metros cuadrados, ni por un sueño dorado. Yo lucho por un paisaje bien perfumado y por un buen plato de bistec encebollado. Por la sonrisa de mi madre que vale un millón. Lucho por mi abuela meciéndose en su sillón. Lucho por unos pinchos al carbón y por lo bonito que se ve la perla desde un avión. Oye, dile.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana.
Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de...
repleta de cerveza con hielo. Oye.
Donc une expérience commune mondiale, mais aussi un blocage mondial qui a affecté toutes les économies. Est-ce que vous pouvez nous parler, Patrick Verbruggen, des conséquences de la crise économique sur certains pays dans lesquels vous travaillez?
Ben, je partirai sur le Soudan, parce que faut pas oublier qu'ils ont mené une révolution, ils ont gagné, enfin c'est pas encore tout à fait gagné, quoi. Le dictateur a été éjecté, Béchir, mais déjà ils traversaient de par la partition du pays en deux, le Soudan Sud qui avait le pétrole et le Soudan Nord, donc l'économie du Nord a été abattue, et déjà juste avant le Covid, le taux d'inflation était stratosphérique, donc le Covid là-dessus est arrivé, donc les gens ont été confinés, donc il y a beaucoup de, comme on est avec du Sud, j'imagine beaucoup de gens qui vivent de petits boulots au jour le jour. Donc ça a été terrible. Et puis l'augmentation, enfin l'inflation a continué. Ils sont dans une, là ils sont vraiment avec des problèmes économiques énormes qui sont. Pour l'instant, on voit pas le tunnel. Bon, il y a des plans, il y a ainsi de suite, le FMI. Enfin bon, voilà, il y a d'autres pays qui ont été moins impactés. La Syrie, par exemple, n'a pas confiné, parce que s'ils confinaient, ben voilà, les gens allaient mourir de faim. Donc, tout simplement, ils ont décidé de pas le faire, quoi. Donc voilà, avec des conséquences moins graves qu'ici aussi, faut le dire, quoi. Donc c'est voilà. Donc en tout cas, ce sont des pays où on est présents. Je pense que pour l'instant, tous les bailleurs de fonds internationaux ont bien conscience que ça va coûter. Mais ça va coûter. Je rappelle qu'on représente moins d'un pour cent du budget de l'Union européenne, hein, le programme humanitaire. Donc ça va aller. Donc voilà.
Bon, voilà, on a une petite visite. le chat du studio qui est venu nous voir.
Le chat Pacha.
Alors voilà, pandémie et humanitaire. Comment déboucher sur des choses positives au terme de notre promenade? Voilà, d'une petite heure, à travers de nombreux pays, on a cité la Colombie, le Mexique, le Pérou, le Salvador, l'Uruguay, le Soudan, la Birmanie, la Centrafrique, la Corée du Nord, le Rwanda. Oui, je pensais au Rwanda justement. Je pensais à des pays qui ont subi dans les 20 ou 30 ans qui viennent de s'écouler des choses dramatiques et qui apparemment s'en sortiraient plutôt pas trop mal sur le plan économique.
Oui, le Rwanda, Rwanda 94, le génocide rwandais, 1 million de personnes tuées pratiquement à l'herbe blanche, donc pour montrer le niveau d'horreur. Le gouvernement, notamment Paul Kagame, a réussi, mais je crois que il a réussi parce qu'il a misé tout sur les jeunesses, en essayant de faire de son pays un pays magnifique, un lieu attractif touristique, avec une espèce de Silicon Valley, enfin voilà, en maintenant le niveau d'études assez haut, en proposant l'internet gratuit, en interdisant des détails, les sacs plastiques, ainsi de suite, luttant contre la pollution. Donc voilà, en essayant de donner une dynamique à la jeunesse. Je pense que c'est la jeunesse qui remonte le pays. Hein, c'est, moi je pense à l'Algérie, ils disent on se bat pas pour nous, on se bat pour nos enfants. Donc c'est eux qui vont reconstruire le pays. En ce moment, la révolution, la révolution qui a eu lieu au Soudan aussi, les gens qui étaient dans la rue, c'était pour leurs enfants, pour les jeunes. Donc voilà, et c'est là-dessus qu'il faut miser. En tout cas, c'est cette dynamique. Le Timor, pareil, une population extrêmement jeune qui a été sous occupation terrible par l'Indonésie et qui en une décennie, ça commence à se relever. Donc parce qu'ils ont misé sur le tourisme durable, tout ce qui valorise le pays. En fait, ils sont pas. Donc voilà. Donc je pense que le Soudan aussi, même si c'est une crise économique terrible, mais voilà, il y a une avancée de la société civile et ça va être. C'est des populations jeunes. C'est comme en Birmanie. Les populations sont très jeunes. Il faut absolument miser là-dessus. Pour la suite, quoi. Et c'est à ce prix-là que ça va se relever.
Voilà la jeunesse, Carole Solorzano, la jeunesse des chats, la jeunesse des hommes, la jeunesse des femmes, c'est ce sur quoi votre organisation mise, vous nous l'avez dit en commençant. Alors comment ça marche, votre organisation, revenons à ça, comment est-ce que vous faites travailler les jeunes et de quelle manière, et pour arriver à quoi?
Alors le premier pas, on va dire, c'est le recrutement de bénévoles dans les universités. Donc, on va dans les universités et on invite les jeunes à s'engager pour la situation des pauvretés du pays. Et dans certains pays, comme en Amérique centrale, on est plus habitué à la pauvreté, mais dans d'autres, comme le Chili ou même l'Argentine, on n'y pense pas trop aux populations qui habitent dans la pauvreté. Donc, on montre aux jeunes une situation, une réalité de leur pays. On les invite à travailler pour ça. Et les jeunes, après, ils ont deux opportunités. Soit ils s'impliquent comme bénévoles fixes dans le bureau, donc ils prennent une responsabilité qui normalement est liée à ce qu'ils veulent développer comme métier.
Mais bénévoles, ça veut dire qu'ils n'ont aucun revenu.
C'est ça.
Et ils vivent de quoi ?
Ils sont normalement étudiants.
Oui.
Donc ils n'ont pas dans la normalement c'est des étudiants, c'est des locaux, donc ils ont déjà chez eux, on les change pas vraiment des situations.
D'accord.
Ils sont là où ils sont, là où ils font leur vie quotidienne, on leur propose de s'impliquer comme bénévoles certaines heures à la semaine et participer, venir dans les communautés enfin c'est vraiment très important, on va dire à Techo, on est autour des 500 employés. Et 5000 bénévoles fixes. Donc, c'est vraiment une bonne partie de la force de l'organisation. C'est le bénévolat qui s'engage dans des projets. Donc, forcément, il y a toujours quelqu'un qui est salarié, qui les accompagne et qui guide un peu l'expérience du bénévolat. Mais c'est vraiment ça. En fait, sans les bénévoles, ça n'existe pas vraiment, Techo.
Voilà, on vous représentait deux organisations très opposées d'une certaine manière de ce point de vue-là, c'est-à-dire que du côté de Triangle Génération Humanitaire, on a plus affaire à des professionnels qui n'utilisent pas les bénévoles, qui utilisent simplement une main-d'œuvre locale, qui est essentielle parce qu'évidemment elle connaît les préoccupations du pays, et chez vous, chez Techo, c'est presque l'inverse, c'est-à-dire il y a très peu de professionnels rémunérés qui forment en quelque sorte le soubassement de l'édifice. Et puis l'essentiel, ce sont les bénévoles et beaucoup d'étudiants.
Oui, et il faut savoir aussi que les salariés, par exemple, moi, je suis une des plus vieilles, j'ai 29 ans.
Oui.
Donc, par exemple...
Vous êtes l'ancêtre.
C'est ça. Parce que en plus, j'ai commencé mon bénévolat à Techo depuis 12 ans.
Ah oui.
J'étais étudiante à l'université au Nicaragua. J'ai vu l'organisation arriver, je me suis engagée. Donc, ce qui permet qu'à un moment, on a une certaine expérience déjà. On est très jeune, mais on a déjà vécu et beaucoup d'expérience. Et ça permet après d'être les salariés de l'organisation et accompagner d'autres jeunes dans les mêmes expériences.
Voilà. Eh bien, je ne sais pas si vous avez d'autres choses encore à nous dire sur ces interrogations de pandémie et humanitaire.
Patrick Verbrugge, je voulais rebondir sur... On n'est pas opposés.
Oui.
On n'a pas les mêmes chemins, mais on a les mêmes buts.
D'accord. Oui. Non, je voulais dire différent plutôt qu'opposé dans les modes d'organisation. Avec un mode d'organisation fondé sur le bénévolat, sur des jeunes, et puis un mode d'organisation davantage fondé sur du professionnalisme, d'une certaine manière.
Oui, et puis petite équipe plutôt, justement, et pour aller dans les endroits très compliqués.
Voilà.
Parce que c'est quand même un monde économique, donc voilà, chacun sa niche, on va dire.
Et oui. Et oui.
Je veux juste ajouter qu'on est jeune, mais on est assez professionnel aussi.
Exactement.
Bon, ben merci à vous deux, merci à Clara, merci au chat qui nous a pas mal accompagnés aussi, et puis merci à la technique représentée aujourd'hui par Johan au son, Johan Pinto au son, et puis à la caméra par Yanis, Matisse, et puis par Alicia. Merci à vous tous et à très bientôt pour un nouveau Human. Salut. Merci à tous de nous avoir écoutés sur Human, cette émission consacrée à l'humanitaire et à l'écologie. On se retrouve, si vous le voulez bien, dans 15 jours pour un nouveau numéro. Et si cette émission vous avait plu, eh bien faites-le nous savoir en nous couvrant d'étoiles sur votre podcast préféré, en la partageant cette émission sur les réseaux sociaux et en s'abonnant tout simplement à notre chaîne YouTube. À bientôt.
Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.